La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré.
Il y a un peu plus d'un mois, nous avions commencé ensemble à apprendre la langue du cerveau avec le neurologue Lionel Nakache, qui a publié donc un ouvrage sur la question avec sa femme Karine Nakache. Et face aux très nombreuses questions que nous avions reçues pendant l'émission, nous avons décidé de vous proposer un deuxième volet pour aborder d'autres sujets touchant à notre organe, siège de la pensée. C'est donc cet après-midi que nous poursuivons l'exploration du cerveau pour en comprendre le fonctionnement et les mécanismes concernant la mémoire, les émotions, la conscience et le langage. Lionel et Karine Nakache sont mes invités dans un instant. Ils vont répondre bien sûr à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui prenez les commandes cette semaine de la Une de la Science et aujourd'hui le cri d'alarme des chercheurs face à la multiplication des maladies qui s'attaquent aux plantes.
Oui, ils étaient une centaine d'experts et de scientifiques réunis la semaine dernière à Paris lors de la première conférence internationale sur l'émergence des maladies des plantes et leur constat est sans appel. Jamais la nature et l'agriculture n'ont eu à faire face à une telle vague de nouveaux pathogènes. Mmh. On en discute avec Alain Roch de l'INRA.
Et voilà donc pour le sommaire de cette tête au carré réalisée par Fanny Boyon est préparé par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Parlez-vous cerveau, livre sorti aux éditions Odile Jacob en coédition avec Radio France. Et c'est vous qui le signez, Lionel et Karine Nakache. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et ravi de vous retrouver. La langue se répand, Lionel Nakache, hein, si on en juge par le nombre de lecteurs de cet ouvrage. Pourquoi est-ce que c'est si important d'enseigner justement cette langue du cerveau à nos contemporains aujourd'hui?
Je pense pour deux raisons principales. La première, elle va de soi, c'est de mieux se connaître. Connaissance de soi, la connaissance de soi ne va pas uniquement par les neurosciences. Il y a plusieurs branches, la philosophie, l'introspection, l'histoire, même l'expérience personnelle. Mais il est clair que les neurosciences, en nous révélant des contraintes qui gouvernent la mécanique de nos pensées, de nos émotions, de notre mémoire, de notre conscience, eh bien, en être lucide nous permet de mieux nous connaître et donc d'atteindre une certaine forme de liberté, en tout cas la seule qui est à notre portée. Mmh. Et la deuxième, je pense que c'est plutôt ce aussi qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on voit que depuis une dizaine d'années, les neurosciences, ce qui n'était pas le cas avant, s'invitent de plus en plus souvent dans les débats de société, l'éducation, oui, la justice, la santé, la prise de décision. Oui. Et ça veut dire que pour que, démocratiquement, en tant que citoyen, les non-experts soient capables de se prononcer dans des débats qui vont impliquer tout le monde, eh bien, il faut qu'ils soient capables de s'exprimer, d'avoir une pensée assez libre, et pas simplement d'annoncer des positions qui ne sont pas les leurs. Donc, d'avoir une sorte de gain de lucidité aussi en tant que citoyen.
Certains pensent d'ailleurs aussi que les neurosciences s'imposent parfois un
oui,
peu
exactement.
Trop dans les débats.
On en
discutera.
Absolument, c'est un exemple. Les deux extrêmes, je pense, sont à...
Tout à l'heure. Karine Nakache, vous avez appris à parler cerveau en vivant au quotidien avec un neurologue. Oui. Est-ce que cette langue du cerveau est facile à maîtriser? Alors, vous qui n'êtes pas justement scientifique...
Alors, justement, oui, c'est vrai. Je ne dirais pas que j'ai appris à parler les cerveaux, mais disons que on s'est rendu compte ensemble que vivre 25 ans, pratiquement 25 ans ensemble, bah, d'une certaine manière, vous savez, c'est un peu comme dans les couples bilingues, ouais, où vous allez avoir une compréhension de la langue de l'autre, non pas par un apprentissage précisément. Vous me demandiez si c'était facile à maîtriser, si je l'avais apprise. Lionel ne me donne pas des cours de neurosciences à aucun moment de la journée, mais par contre, c'est vrai que de vivre au contact d'une science comme les neurosciences qui s'invitent de manière assez naturelle en fait dans notre vie, eh bien ça fait que effectivement on finit par être à l'aise, sentir cette langue comme vous êtes assez familière et que ça a pas mal d'intérêt. Et voilà, c'est un petit peu l'exercice auquel on a voulu se prêter ensemble.
Ouais. Il y a de belles études d'ailleurs sur la connexion des cerveaux des couples qui sont sorties récemment. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais on pourra
en
discuter.
On n'a pas contribué encore.
Non, pourquoi pas. Allez, on se retrouve en tout cas dans quelques minutes avec les questions, les messages des auditeurs. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Avec une alerte aujourd'hui sur les maladies émergentes des plantes à la Une de la Science.
À première vue, ces petites chenilles processionnaires paraissent inoffensives et pourtant, elles peuvent causer de graves démangeaisons. Ces chenilles restent au chaud tout l'hiver, perchées en haut des pins ou des chênes. Au printemps, elles quittent leur cocon et c'est là que leurs poils ont plus de chances de s'envoler. Leur territoire s'étend chaque année davantage. Les chenilles processionnaires sont aujourd'hui aux portes de Paris.
Voilà, il y a quelques jours sur BFM TV, ce sont donc des insectes, des virus, des champignons qui viennent d'ailleurs et qui font des ravages sur des plantes souvent sans défense. Et c'est une tendance mondiale, mais qui touche particulièrement le continent européen. Comment enrayer justement l'arrivée de ces nouveaux pathogènes qui voyagent d'un continent à l'autre? Comment les dépister et comment les combattre? Caroline Tourbe, on en parle avec notre invité.
Oui Mathieu, et comme tous les lundis, nous sommes en partenariat avec nos confrères de Reporter.net. Bonjour Lorraine Lavocat.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec Alain Roch. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, dans l'unité de zoologie forestière à Orléans, et vous êtes l'un des grands spécialistes de ces nouveaux ravageurs exotiques. Vous avez participé à la conférence internationale sur les maladies des plantes organisée la semaine dernière par l'ANSES, et on y a partagé un constat alarmant. Les attaques contre les plantes se multiplient. C'est une tendance en fait que rien ne semble pouvoir inverser. Vous pouvez un peu nous donner l'ampleur de ce phénomène ?
Oui, alors d'abord, il faut préciser, c'est les attaques des ravageurs exotiques qui sont introduits en Europe, qui tendent à augmenter et qui augmentent même de manière exponentielle. Bon, très concrètement, il y a à peu près 1500 espèces d'insectes exotiques qui sont aujourd'hui présents en Europe, et on a pu voir que la tendance à leur établissement a été accélérée durant les 40 dernières années. On est passé par exemple d'une moyenne de 9,7 espèces nouvelles arrivant et s'établissant par an en Europe durant les années 1950-1974 à aujourd'hui à peu près 15 espèces qui s'établissent par année depuis les années 90. Et cette tendance, comme nous l'avons estimé lors de la conférence, ne se ralentit pas, c'est le premier point. Et le deuxième point est que la majorité des espèces qui arrivent aujourd'hui sont des espèces qui n'ont jamais été observées comme envahissantes dans un autre continent. Pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, elles sont même inconnues pour la science, tout simplement parce que les conditions dans lesquelles aujourd'hui elles voyagent, avec la multiplication des échanges commerciaux et la diversification de ces mêmes échanges commerciaux, font qu'elles peuvent venir de pays ou de continents avec lesquels l'Europe précédemment n'avait pas de contact direct.
Et justement, ce qui facilite le trajet de ces ravageurs, c'est donc la progression du commerce international avec l'Asie, c'est ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire que, disons que pendant les années 1950-1970, on avait des introductions qui étaient volontaires d'insectes, par exemple pour la lutte biologique. Aujourd'hui, ces introductions volontaires ne représentent plus que de l'ordre de 10% des espèces qui arrivent. La majorité d'entre elles arrivent soit comme contaminants de plantes, et donc avec le commerce des plantes qui a explosé durant les dernières décennies, soit arrivent comme ce qu'on appelle des passagers clandestins, c'est-à-dire que elles se retrouvent dans des containers qui n'ont pas de valeur biologique pour elles, ou bien dans des pneus usagés, c'est le cas par exemple du moustique tigre. Donc il n'y a aucun lien biologique entre l'espèce en question et son déplacement. Mais cette espèce est véhiculée par l'intensification des échanges commerciaux entre les différents pays, et notamment entre l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui, la principale source d'espèces exotiques arrivant en Europe, c'est la Chine.
Et justement,
c'est un lien évident avec les échanges commerciaux croissants.
Ces ravageurs exotiques vont arriver, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, vont arriver sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, et pourtant ils vont se retrouver dans une situation presque idéale. Ça, c'est lié au changement climatique, c'est-à-dire que ça va leur permettre d'émerger comme jamais auparavant.
C'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait que, en général, quand ils sont introduits sans leurs ennemis naturels, ce qui leur facilite aussi la possibilité de survivre. La deuxième chose, c'est que ces insectes, quand ils arrivent, vont se trouver confrontés à des plantes qui n'ont pas évolué avec eux et qui, de fait, n'ont pas de défense par rapport à leurs agresseurs. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un insecte qui est aujourd'hui le ravageur numéro 1 sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, qui détruit tous les frênes. C'est un tout petit insecte très joli, hein, par ailleurs, un bupreste. Et cet insecte-là, dans son pays d'origine, la Chine, plus globalement l'Extrême-Orient, ne fait pas de dégâts sur les frênes, parce que les frênes ont coévolué avec lui. Mais dès l'instant où il se retrouve soit en Amérique du Nord, soit en Russie d'Europe, il fait d'énormes dégâts parce que les frênes n'ont aucune défense pour lui résister et lui n'a pas d'ennemi naturel, donc il peut progresser comme il veut.
Allez, Lorraine,
par ailleurs, ouais. Comme vous le disiez, le changement climatique peut avoir une importance, c'est-à-dire que dans des situations particulières, des conditions climatiques empêchent les insectes, par exemple, de survivre durant l'hiver, tout simplement parce qu'il fait trop froid pour qu'ils puissent survivre. Et un très faible changement de la température moyenne hivernale va faire qu'ils peuvent survivre. Vous évoquiez au départ la processionnaire du pin, c'est exactement ce cas-là. C'est-à-dire que la processionnaire, qui est un insecte qui se développe à l'état larvaire durant l'hiver, arrive à progresser naturellement vers le nord, tout simplement parce que ces colonies ne peuvent pas survivre à moins de moins 16 degrés, mais vous savez comme moi qu'aujourd'hui, on n'a plus moins 16 degrés durant l'hiver en région parisienne, dans le nord de la France, voire en Belgique, aux Pays-Bas.
À La Roque, il y a une question de Lorraine Lavocat pour reporter.net pour vous.
Alors, vous décrivez bien effectivement comment ces ravageurs, ces pathogènes menacent finalement les plantes, les végétaux aussi, notre agriculture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que vous, scientifiques, vous vous attelez à la dure tâche de défendre, entre guillemets, nos écosystèmes face à ces nouvelles arrivées?
Alors justement, la conférence a été quasiment intégralement dédiée à cet aspect. C'est-à-dire que là, on est confronté au fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Si vous prenez, par exemple, le petit insecte, le petit bupreste dont je parlais tout à l'heure, il n'était pas répertorié dans les listes d'insectes faisant des dégâts en Chine. Et on n'avait aucune possibilité de dire « attention, cet insecte est dangereux et c'est un envahisseur potentiel ». Donc, on est confronté à ce problème-là. Quel premier problème? Comment arriver à identifier a priori les espèces potentiellement invasives? Et l'INRA, par exemple, mais maintenant c'est généralisé sur d'autres organismes de recherche et d'autres pays, a mis en place des plantations sentinelles en Chine. C'est-à-dire qu'on a planté des arbres européens dans les continents qui sont censés amener les insectes exotiques envahissant l'Europe, et on regarde la colonisation des arbres européens par ces insectes exotiques. Ce qui nous permet de dire, attention, celui-là peut être dangereux alors qu'on ne pouvait pas le repérer précédemment.
Allez, Alain Roque, dernière question parce qu'on est assez
en
retard.
On a parlé de recherche.
Le deuxième aspect, c'est les piégés aux frontières.
Très bien.
Et les piégés aux frontières, on a mis en place des pièges qui permettent aujourd'hui, dans un certain nombre de ports, à Roissy-Charles-de-Gaulle, d'aéroports, à Roissy-Charles-de-Gaulle ou dans les ports de Marseille, Fos, etc., on a des pièges avec des mélanges permettant de capturer des insectes sans savoir ce que l'on recherche, c'est-à-dire des mélanges qui vont nous permettre de piéger des insectes pouvant arriver accidentellement sans que précédemment on ait aucun indice de leur arrivée.
Et puis on rappelle, Mathieu, que évidemment on évite, quand on fait des voyages lointains, de ramener soi-même des plantes et des boutures avec de la terre.
C'est une bonne idée. Merci beaucoup Alain Roque, vous êtes directeur de recherche à l'INRA. On termine par un coup d'œil sur le sommaire de reporter.net, Lorraine Lavocat.
Alors à la une aujourd'hui de reporter, un très beau reportage dans le Morbihan, une ferme un peu spéciale où l'éleveur est autiste et accueille des stagiaires en situation de handicap mental. Donc ces jeunes apprentis agriculteurs gagnent peu à peu en autonomie là-bas.
Et reporter.net pour en savoir plus, et on vous retrouve la semaine prochaine. Caroline Tourne dès demain à la Une de la Science. Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, plus de 300 millions d'euros pour préserver la grande barrière de corail. Le gouvernement australien a promis de consacrer cette somme à la restauration et la protection du plus grand récif du monde. La semaine dernière, des chercheurs ont révélé l'ampleur des dégâts subis par la grande barrière avec une disparition de 30% des coraux directement liés au réchauffement climatique. Or, du fait de sa dépendance aux énergies fossiles, l'Australie est considérée comme l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre par habitant de la planète. Le plan de protection présenté par le gouvernement australien servira surtout à améliorer la qualité de l'eau, à lutter contre les prédateurs et à renforcer les mesures de restauration. Toujours en Australie, la plus vieille araignée du monde vient de mourir à l'âge canonique de 43 ans. L'animal, une femelle de l'espèce Gaius villosus, a battu à plate couture le précédent record détenu par une tarentule de 28 ans. La nouvelle doyenne des araignées faisait l'objet d'une étude de suivi à long terme depuis les années 70. Et puis des cerveaux de cochon maintenus en vie pendant 36 heures. L'équipe de neuroscientifiques de l'université de Yale aux États-Unis affirme avoir réussi à préserver la circulation dans ces cerveaux détachés du corps des animaux en les reliant à des systèmes de pompe à oxygène et à des poches de sang maintenues à la température corporelle. Les cerveaux ne présentaient pas d'activité consciente car les chercheurs avaient pris soin d'injecter dans le sang des produits qui inhibent l'activité neuronale. L'expérience n'en soulève pas moins un débat éthique sur le bien fondé de telles prouesses techniques. Les chercheurs de Yale, eux, espèrent développer de nouveaux traitements contre des maladies neurodégénératives ou le cancer. Yannel Lacache, un mot sur ce type d'expérience?
Oui, alors je ne connais pas précisément ce travail, mais très globalement.
Ou pas?
Oui, c'est intéressant en soi, ne serait-ce que déjà le maintien d'organes, en fait. Le maintien d'organes vivants en dehors des conditions normales. On le sait, par exemple, dans les questions de transplantation, de greffe, il y a tout un défi. Pour certains organes, on sait le faire. Pour le cerveau, qui est l'organe le plus complexe, ce qu'on sait faire pour l'instant même en termes de recherche, c'est garder des tranches d'hippocampe. Et il y a énormément de travaux qui ont été faits, donc qui permettent de maintenir une tranche d'hippocampe et d'étudier le fonctionnement des réseaux de neurones, etc. Alors là, selon cet article que je n'ai pas encore lu, le fait de connaître, d'identifier mieux les contraintes d'oxygénation, de vascularisation d'un cerveau entier de porc, évidemment, ça pourrait être une étape supplémentaire avec, on imagine, à la clé d'éventuelles, un peu à moyen long terme, conséquences translationnelles cliniques, quoi, des conséquences thérapeutiques. Mais évidemment, comme vous l'aviez souligné, ça soulève aussi des questions éthiques qui sont extrêmement importantes à prendre en compte dès le départ.
Allez, on continue à parler cerveau avec vous dans un instant. Diplo et Santigold, Rory No More.
La tête au carré.
Attention, s'il vous plaît. Le protéus va entrer dans l'oreille interne.
Vous vous en rendez compte? Ils sont dans le cerveau humain.
Le protéus a franchi l'oreille interne et s'engage dans le canal menant au cerveau.
D'où peut venir cette lumière?
Tous les soleils qui éclairent les allées de l'univers sont ternes devant la beauté d'une simple idée.
proclamant en incandescente gloire la force de l'esprit humain.
C'est très poétique, messieurs. Dites-moi quand on sera près de l'âme.
De l'âme ? L'esprit qui est fini ne peut comprendre l'infini. Et l'âme qui a été créée par Dieu est infinie.
Des impulsions lumineuses allant au cerveau. Nous approchons de l'œil.
Quel souvenir avec le voyage fantastique, ça c'est 1966 pour parler cerveau avec mes invités. Lionel Lacaze, juste une réaction sur l'extrait parce que ça a vraiment laissé beaucoup de souvenirs à beaucoup d'entre nous.
Ah oui,
d'ailleurs.
Notamment moi ça, immédiatement, hein, c'est comme une sorte de Madeleine. Hein. Je me souviens enfant l'avoir revu plusieurs fois.
C'est incroyable cette série.
Oui, c'est d'autant plus incroyable même qu'en écoutant même le côté un peu dogmatique, on le montrait pas comme ça aujourd'hui ce film. Et sans doute que les effets spéciaux étaient basiques, mais il nous a marqué. En tout cas, il a marqué des générations. De spectateurs,
absolument.
Avec un imaginaire fou.
C'est... Ouais. Et on avait presque trouvé l'âme hein, dans le cerveau là, dans cet extrait.
Oui, mais on voit déjà que dans cet extrait, par contre, par exemple, on fait déjà appel à un des arguments classiques de dire que les limites de l'intelligibilité humaine seraient déjà peut-être posées comme une limite à la compréhension de ce qui préside à l'intelligibilité humaine, qui serait plus complexe que l'intelligibilité humaine elle-même, ce qui est un argument classique dont on peut débattre la pertinence, hein, mais il était déjà là dans le film, c'est intéressant.
C'est ça, 1966 donc pour le voyage fantastique. Parlez-vous cerveau, c'était une série l'été dernier sur France Inter, donc aujourd'hui c'est un livre publié chez Audit Jacob en coédition avec Radio France et vous en êtes les auteurs Lionel et Karine Nakache, neurologue Lionel Nakache, directeur de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et puis Karine Nakache, vous êtes auteur de romans. Est-ce que c'est vous qui avez trouvé le titre d'ailleurs ?
Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai trouvé le titre. Ouais. En écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'aborder ces neurosciences sous l'angle d'une langue étrangère. Et donc, la première question qu'on se pose quand il s'agit d'une langue étrangère, c'est est-ce qu'on la parle ou pas ?
Exactement.
Et voilà, et c'est le questionnement dont on s'est dit qu'on allait le mener un petit peu jusqu'au bout. Et voilà.
Donc vous avez décliné cette idée.
Exactement.
Et pour justement en explorer le vocabulaire, les temps, les conjugaisons par exemple ?
Oui, pour en explorer le vocabulaire, parce qu'on s'aperçoit que quand on écoute... Un scientifique parler, et les neuroscientifiques évidemment ne font pas exception, vous demandez à un scientifique de parler sans faire appel au vocabulaire de son domaine, au vocabulaire scientifique, mais c'est un petit peu comme si vous demandiez à un joueur de tennis de jouer sans sa main, il peut pas. Et pour autant, ce vocabulaire, le grand public auquel les neuroscientifiques sont de plus en plus souvent appelés à s'adresser, eh bien, on le maîtrise pas en réalité. Et donc, l'intérêt, c'était de commencer par essayer d'en maîtriser vraiment les rudiments, et puis de proche en proche, aborder toutes les questions qui, elles, nous parlent.
Absolument.
Nous sommes tout à fait familières, d'où l'idée effectivement de commencer sous l'angle d'une langue étrangère, mais d'approcher de manière plus solide, moins dogmatique aussi je pense, les questions que les neurosciences sont de plus en plus souvent appelées à adresser elles aussi.
Et puis l'avantage c'est qu'en apprenant cette langue étrangère, on peut la partager dans le monde entier, Lionel Lacaze, parce qu'a priori tout le monde parle à peu près le même cerveau. Hein,
exactement, donc il pourrait y avoir une sorte de langue universelle cérébrale. Ouais. Mais le défi, c'est évidemment que comme chacun d'entre nous et dans le monde parle une langue, est familier avec un ensemble de représentations qui passent par le langage, je pense qu'on peut pas faire l'économie de ce truchement-là. C'est-à-dire que pour chaque langue, être capable de tisser les liens entre ce vocabulaire scientifique qui, lui, n'a pas de frontières, mais les références culturelles, les références intellectuelles, les références de la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Alors, c'est donc une sorte d'espéranto, c'est ça ce que
c'est ça, dire, exactement, du cerveau, voilà. Absolument. Karine Nakache, ce livre rencontre un grand succès. Ça veut dire effectivement que tout ce qui touche au cerveau aujourd'hui intéresse, questionne, concerne les citoyens. Est-ce que ce sont les maladies neurodégénératives, à votre avis, qui suscitent autant d'intérêt ou pas forcément d'ailleurs ? Est-ce que c'est vraiment cet organe dans son ensemble ?
Oui, j'aurais dit qu'évidemment, les maladies neurodégénératives, elles suscitent, elles ont un retentissement, je dirais, personnel pour les gens qu'elles touchent, que ce soit évidemment
familles,
en tant que malade ou les accompagnants.
Ouais.
Et évidemment, là aussi, si on essaye de comprendre la spécificité des neurosciences, on peut là aussi faire une comparaison avec justement d'autres maladies. C'est-à-dire que si, par exemple, tout d'un coup, vous avez un problème à un bras, à un genou, il y a peu de chances que, en dehors du problème de le résoudre, ça suscite en vous une forme de crise existentielle ou en tout cas de prise de conscience de la complexité qui préside à votre fonctionnement global. Mmh. Or, on s'aperçoit que lorsque des gens sont touchés par des maladies du type de maladies neurodégénératives, mais aussi des pathologies qui peuvent toucher l'enfance ou autre, très vite, ça éveille des questionnements qui dépassent de loin le fonctionnement de l'organe dans sa dimension purement fonctionnelle, mais ça touche à des aspects plus existentiels, je dirais, de nos vies.
Ouais. Voilà. Lionel Lacage, vous étiez en Corse hier pour une conférence qui a réuni 1000 personnes au Parc Galéa.
Au Parc Galéa, est un endroit unique à la
donc
fois.
Donc c'est-à-dire qu'on se déplace, même quand il fait 25 degrés, pour aller entendre parler
oui, écoutez,
du cerveau.
On était stupéfaits de voir cette foule, à peu près 1000 personnes.
Mais ça dit quoi, au fond, de l'intérêt qu'on porte au cerveau?
Moi, je pense que ça veut dire qu'on porte un intérêt, c'est-à-dire qu'on attend aussi des scientifiques qu'ils soient capables de mettre à disposition des non-scientifiques, non pas l'ensemble de leur expertise, parce qu'il ne s'agit pas de sortir avec un diplôme ou une thèse en écoutant deux heures ou en lisant des livres ou des émissions, mais simplement en étant capable de vraiment s'approprier des concepts qui sont le fruit d'un travail compliqué, mais qui, une fois qu'ils sont découverts et formulés, on peut les communiquer, et on peut les communiquer aussi clairement que nous-mêmes, on réfléchit avec, en fait. Et ça, c'est, je pense qu'il y a ce défi-là, il y a un autre, peut-être, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais on est dans une période aussi où la façon de laquelle on vulgarise, souvent, fait appel à un discours qui vise pas nécessairement la connaissance toujours, mais qui vise un aspect prescriptif. Vous savez pas, c'est trop compliqué, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manger ça, il faut... Et notre position, c'est pas là aussi, c'est pas idéologique, mais juste de rapport à la connaissance en général, je crois qu'il faut passer par une liberté qui dise, avant de savoir ce qu'il faut faire, commençons par comprendre de quoi il s'agit.
Donc il y a un petit apprentissage qu'on doit passer par le langage, par les mots du cerveau, pour bien être d'accord sur les sujets qu'on aborde.
Exactement, s'entendre sur les mots.
Parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Alors vous le dites par exemple, dans le cas des techniques et des outils qui sont utilisés aujourd'hui, dans la neuro-imagerie par exemple, les gens pensent savoir de quoi ils parlent en évoquant le scanner, l'IRM, etc. En fait, il y a souvent des confusions dans ce domaine.
Oui, moi j'ai remarqué ça vraiment de manière à la fois en tant que neurologue et en tant que chercheur dans des conférences ou même dans des consultations où souvent ce qui est étonnant c'est qu'on parlait, Karine évoquait le fait que ce langage scientifique souvent il opère comme un mur, mais une des facettes du mur c'est que parfois les gens n'ont pas conscience que c'est un mur, c'est-à-dire qu'ils pensent connaître ce langage parce qu'ils en ont un peu le jargon, mais en réalité dès qu'on creuse un peu, on voit que derrière ce jargon dont ils se sentent rassurés de l'avoir, en fait c'est très fragile, il n'y a rien. Donc vous dites, quelqu'un va me dire, oui, j'ai fait une IRM ou j'ai fait un électroencéphalogramme.
Et parfois, on mélange un peu les outils.
Quel examen faire dans quelle situation? Que va sonder chaque examen sur la structure, le fonctionnement du cerveau? Avec quelle précision temporelle, spatiale? Des choses qui ne sont pas compliquées. Mais cette boussole, on essaye aussi de la procurer, de la proposer en tout cas, au-delà des mots directement.
Voilà, donc c'est une mission d'intérêt public, Karine Nakache, finalement, de publier un ouvrage comme ça.
Oui, c'est vrai. Et puis sur la question du pouvoir des images, il est pas, là aussi, c'est une question qui est pas spécifique au cerveau, mais qui, en ce qui concerne le cerveau, prend peut-être une dimension un peu plus inquiétante, parce qu'effectivement, l'imagerie en général, l'image du cerveau, c'est quelque chose auquel on s'est énormément habitué. Vous faisiez référence à notre retour de Corse qui date d'hier. Bon, dans l'avion, on regardait, ne serait-ce qu'autour de nous, les gens qui lisaient des magazines. Je voyais des gens et il y avait sur deux de mes voisins des articles avec une illustration, avec des images du scanner ou d'IRM. Et donc, on fait appel de plus en plus souvent à cette image du cerveau pour nous dire « on sait ». Voilà. Les neurosciences ont dit que, et donc il y a le côté un petit peu argument d'autorité et argument aussi qui fait écran d'une certaine manière à ce qu'on ne sait pas aussi, à ce qu'il faut d'une certaine manière apprendre pour pouvoir réagir de manière qui ne soit pas une manière interdite à tous les discours qu'on nous sert sur les neurosciences.
Alors justement, on parle cerveau avec vous cet après-midi. Beaucoup de questions déjà sur franceinter.fr, sur les sciences de l'éducation, sur la biologie de la conscience. Beaucoup de choses assez différentes. Je vous les transmets dans un instant. C'est sur le site de l'émission pour nous rejoindre.
Je t'alarme, tu me cambrioles. te vise, tu me cibles. Je me rends, tu me descends. Assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit. Assassine de la nuit, oh, oh. Je te hausse, tu me noies, je te coule, tu me bois. Je te sphinx, tu me félines. Je te démon, tu me divines. Oh, tu moi encore. Oh, tu me tues. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassin de la nuit. Assassin de la nuit. Assassin. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grand large. Je te détache, tu me dérives. Tue-moi encore. Oh, tu me tues. Assassine de la nuit.
Assassine de la vie, la voix d'Arthur H.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Lionel Nakache et Karine Nakache avec nous pour ce livre. Donc, Parlez-vous cerveau, deuxième émission autour de ce thème, autour du langage, du vocabulaire, de la conjugaison du cerveau, et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Karine Nakache, puisque vous rencontrez le public en ce moment avec Lionel Nakache, quelles sont les questions, finalement, les centres d'intérêt qui reviennent le plus?
Ah oui, c'est
là
intéressant, ouais. Parce qu'on s'aperçoit que les questions, vous disiez tout à l'heure, il y a la maladie, bien entendu, ouais. Mais on s'aperçoit qu'en fait, chacun peut avoir un questionnement qui va viser des aspects de son existence, son métier. Typiquement, quelqu'un qui va travailler dans le marketing va s'intéresser à comprendre les ressorts de l'influence, des processus d'influence qui président à nos décisions. Mmh. Quelqu'un qui va travailler dans des métiers plus sociaux va s'intéresser aux ressorts de l'empathie et de l'interaction sociale, ce qu'on appelle le cerveau social. Mmh. Donc chacun vient d'une certaine manière, c'est là qu'on s'aperçoit, là aussi, qu'on comprend combien les neurosciences ont à la fois une très grande légitimité à donner leur point de vue, d'une certaine manière, sur les différentes questions qui peuvent nous interpeller chacun d'entre nous. Et en même temps, il y a aussi parfois, comme vous le disiez, presque une trop grande attente par rapport aux neurosciences. C'est-à-dire que j'étais en l'occurrence donc en Corse, par exemple, hier, et on s'aperçoit que les gens ont presque le sentiment d'avoir un cerveau devant eux qu'ils pourraient questionner, et leur propre cerveau, médié par la parole d'un expert, en l'occurrence par exemple Lionel, mais il n'est évidemment pas le seul à délivrer cette parole, et donc à viser tout un tas de questions. L'éducation, bien entendu, le vieillissement et toutes les questions qui vont avec. On disait, par exemple, la justice aussi, savoir dans quelle mesure une personne peut avoir, est considérée comme apte à avoir toutes les activités civiques dont elle doit répondre auprès de la justice, que ce soit pour des crimes ou même pour les actes de la vie courante, toutes les questions de tutelle ou de mise sous curatelle ou ce genre de choses. Donc, encore une fois, la très grande légitimité des neurosciences, mais aussi, d'une certaine manière, la nécessité d'encadrer son périmètre pour qu'elle n'ait pas non plus vocation à répondre à toutes les questions et être un prisme d'explication unique, ouais. Bien entendu.
Alors, ça fait l'objet de critiques, effectivement. Vous citez les neurosciences de l'éducation. situation, Lionel Lacache, en ce moment, on peut lire un débat entre la psychanalyse, par exemple, et les neurosciences. Débat qui refait surface avec la création du conseil scientifique dirigé justement par le neuropsychologue Stanislas Dehaene. Certains s'inquiètent justement très clairement chez les psychanalystes que les neurosciences exercent une forme d'emprise sur les politiques éducatives. Il y a toujours ce débat là qui revient.
Oui, alors écoutez, je ne me suis pas plongé dans les arguments des psychanalystes. Ce qui est clair, et là je rebondis totalement je rejoins totalement ce que dit Karine, c'est que vous savez, l'être humain, il a un biais important, c'est que quand on nous pose une question à laquelle on ne sait pas répondre, on se sent commis de répondre à tout prix, à toute force, on pourrait dire. Et un des points importants, c'est exactement ça, c'est que face à une question, c'est de savoir dire ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire. Et il est clair qu'aujourd'hui, les neurosciences qui font des progrès considérables intéressent tout le monde, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais c'est encore très très balbutiant notre savoir, vous voyez. Donc autrement dit, on n'a pas matière à répondre de manière totale, donc c'est pas un discours totalitaire, c'est pas un discours qui va englober, mais c'est un discours qui par contre peut déjà s'opposer à certains éléments dont on peut montrer qu'ils sont pas vrais, d'un point de vue scientifique. On peut prendre l'exemple fameux, mais qui n'est même plus discuté aujourd'hui, de la lecture. Eh bien on sait qu'entre une lecture globale ou une lecture qui va passer par un décodage phonémique, etc., eh bien cet aspect-là est tranché, on pourrait dire. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les questions. Et donc je fais pas partie du conseil scientifique, Stanislas, qui est un ami et qui a dirigé ma thèse, avec qui je suis en contact permanent. Je ne fais pas partie de ce conseil scientifique, donc c'est encore plus facile pour moi d'en parler. Mais il me semble important, non pas que les neuroscientifiques se substituent aux pédagogues, ce ne sont pas les mêmes expertises, ce ne sont pas les mêmes métiers, ce ne sont pas les mêmes connaissances, mais par contre que ce dialogue soit fécond, soit fertile, qu'il puisse y avoir là aussi, non pas un argument d'autorité type psychanalyse des années 50, ni discours neuroscientifique totalisant, mais qui est quelque chose qui soit fondé sur l'expérience, sur la connaissance, sur la reproductibilité, sur la scientificité d'un savoir. Et ça ne veut pas dire qu'on enlève l'humain. En fait, on peut faire une science de l'humain qui conserve à l'humain son statut de sujet. On peut faire une science de la subjectivité qui n'éteint pas le sujet, mais qui lui donne toute sa place et sa liberté. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut mettre de côté les idéologies, vraiment, c'est de manière générale. Et cet exemple de l'éducation sera un sujet. Je suis impatient de voir ce qui va en sortir, parce qu'on en attend le meilleur.
Mais c'est surtout pour les enfants, oui. Si on arrive à mettre au point des outils basés sur l'expérience des neurosciences.
Et puis je pense, dans l'interaction entre les professeurs et les scientifiques, d'arriver à ce qu'il y ait une sorte de dialectique vertueuse. Que chacun puisse apprendre de l'autre, qu'il puisse avoir... Et pour ça, il faut commencer par ne pas avoir l'impression de se sentir en danger. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, ce ne sont pas des gens qui vont dire, allez, poussez-vous, c'est notre métier, on prend votre place. Ce n'est pas ça l'objet, en tout cas.
Autre sujet de controverse, c'est Patrice qui nous l'indique, les neurosciences peuvent malheureusement aussi servir à nous manipuler, et d'ailleurs, les publicitaires sont à l'affût. Alors, il y a tout un courant, là aussi, du neuromarketing, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on sert des connaissances de notre cerveau pour nous manipuler directement?
En tout cas, on peut le faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend comment fonctionne l'attention, une fois qu'on comprend comment fonctionne la mémoire, autrement dit, quels sont les facteurs qui vont permettre de mieux mémoriser une scène vécue plutôt qu'une autre, ou un élément de la scène vécue plutôt qu'une autre, notamment en faisant appel à des facteurs émotionnels très forts qui vont focaliser et attirer ce qu'on appelle, on appelle ça une capture attentionnelle. Voyez le vocabulaire, c'est que notre attention, au lieu de l'allouer volontairement à ce que l'on désire attendre, eh bien parfois c'est le stimulus qui va capturer de manière involontaire notre attention. Donc ça, une fois qu'on connaît ces rouages, on peut effectivement, comme toujours, et ça c'est pas le propre des neurosciences, mais on pourrait dire de la connaissance en général, une fois qu'une connaissance est formulée, on peut en faire tous les usages, pour le meilleur comme pour le pire.
Alors, autre sujet de discussion, la conscience par exemple, on passe vraiment d'un sujet à un autre, il y a une question de Véronique sur le site de l'émission. Comment définir biologiquement ce qu'est justement une conscience?
Je remercie Véronique parce que c'est mon sujet d'étude, ce qui m'a attiré vers
qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui. Justement,
ce qu'on peut dire avant tout, c'est que avant tout, la conscience, avant tout, c'est un phénomène psychologique. Donc, on va définir psychologiquement ce que c'est que la conscience. Et par exemple, une définition il m'arrive de parler 5 heures avec mes collègues.
On n'est pas dans le biologique, là, pour le coup.
Non, mais du psychologique peut avoir des bases biologiques et peut avoir des propres. Ça peut être la propriété psychologique d'un phénomène biologique. Mais il faut commencer par ne pas se tromper, par dire, la conscience, avant tout, c'est une histoire de psychologie. Et par exemple, on pourrait donner la définition suivante, celle que j'utilise, dire que être conscient, c'est la capacité à se rapporter certains de ses propres états mentaux en première personne. Autrement dit, quand nous sommes en train de discuter là tout de suite et que je vous dis, non seulement je discute avec vous, mais je suis en train de discuter avec vous, ce jeu JE, le fait d'être capable de me rapporter à moi-même ce que je fais, on peut prendre ça comme définition de la conscience. Une fois que vous prenez cette définition, Il est possible alors de faire de la science de ça. Vous prenez des individus. Il y a des états dans lesquels ils sont conscients, comme nous sommes éveillés et conscients. Mais la nuit, en sommeil profond, eh bien, nous ne sommes plus conscients. Et de voir ce qui se passe de différent dans le cerveau entre ces états, ou pendant l'anesthésie générale, ou malheureusement dans des situations pathologiques, dans le coma, ou dans des états dont on parle de plus en plus parce qu'ils sont très difficiles à comprendre, il y a des états d'éveil sans conscience, les états végétatifs, ou certaines crises d'épilepsie. Bref, je le dis en accéléré, mais une fois que vous avez défini l'objet psychologique qui est la conscience, vous pouvez arriver à en décrire les fondements et la mécanique biologique. Qu'est-ce qu'il faut dans un cerveau, et notamment dans des cerveaux qui interagissent entre eux, pour qu'on observe ce phénomène psychologique? Et là, vous rentrez dans la biologie de la conscience.
Et alors, justement, bah, on peut poursuivre sur son terrain. Alors, on va où dans la biologie du cerveau?
Je dirais qu'il y a un mélange à la fois...
Est-ce qu'il y a des régions localisées?
Oui, c'est intéressant. Et il y a un mélange de fierté et d'humilité. Fierté parce qu'on fait des vraies découvertes intéressantes, et humilité parce que chaque fois qu'on découvre, on découvre aussi tout ce qu'on ignore encore. Donc on se sent vraiment tout petit, mais néanmoins, ce qu'on a réussi à conquérir comme résultat... Alors rapidement, il n'y a pas une région du cerveau, il n'y a pas la, comme on parlait avant, de la bosse des maths, ouais, etc. Il n'y a pas la région de la conscience, mais la conscience en fait engage l'ensemble du cerveau, on pourrait dire, en tout cas, engage des régions très séparées, très distantes les unes des autres, à l'avant et à l'arrière du cerveau. Et plutôt qu'une région particulière, la conscience, la biologie de la conscience, repose sur le mode de communication entre ces régions. Et ce qui explique d'ailleurs que dans certains états où ces mêmes régions sont toujours là, anatomiquement, dans le sommeil profond, elles ne communiquent pas de la manière qui nous permette d'être conscients, et nous ne sommes pas conscients. Et par contre, quand nous sommes éveillés et conscients, on a une conversation cérébrale, et avec Stanislas, avec d'autres collègues, on a pu caractériser les premières briques de la biologie de cette conscience, en montrant que quand nous sommes conscients, c'est une conversation qui est complexe, qui est différenciée, et qui est intégré à longue distance entre ces régions cérébrales.
Alors justement, l'aspect longue distance, justement, le fait que ces régions soient séparées et assez lointaines au fond dans cette architecture du cerveau, ça joue un rôle précis sur l'émergence de la conscience ?
Ça joue un rôle précis, pas tellement pour la distance par elle-même. Il faut presque compenser pour cette distance, parce que c'est une difficulté pour un cerveau d'arriver à communiquer, à synchroniser des régions séparées. Mais c'est important parce que les régions qu'on a, vous savez, dans le cerveau, il y a un aspect hiérarchique. Il n'y a pas que ça, mais autrement dit, il y a des régions qu'on appelle primaires. Mm-hmm. Par exemple, ce sont les régions qui sont branchées sur le monde extérieur. Les régions visuelles, auditives, motrices, primaires. Et puis, il y a des régions de plus en plus intelligentes, de plus en plus associatives, abstraites. Et donc, à l'avant et à l'arrière du cerveau, vous avez des régions qu'on appelle des cortex associatifs qui sont branchées chacune sur plein d'autres régions. Et donc, en conversant entre elles, elles permettent en réalité de mettre en communication l'ensemble de ces régions, l'ensemble de ces processeurs cérébraux.
Donc ça embrasse l'ensemble finalement de ces processus.
Oui, ça embrasse. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression qu'il y a vraiment deux types d'espaces de travail dans le cerveau. Il y a plein de réseaux séparés les uns des autres, qui fourmillent, qui fonctionnent en permanence de manière indépendante. Et ça correspond à des fonctionnements inconscients. Des fonctionnements, typiquement, pour ma définition, nous ne pouvons pas nous rapporter ce qui se passe dans ces processeurs. Mais en parallèle à ces fonctionnements inconscients, il y a, lorsque nous sommes dans un état conscient, cette conversation à longue distance entre ces régions qu'on a décrites, en avant et en arrière, et cette conversation, elle est occupée par une seule pensée, et c'est celle qui occupe notre conscience.
Et on en discute avec vous cet après-midi dans La Tête au Carré, Lionel et Karine Nakache, juste après Les Innocents, un monde parfait. D'autres messages pour vous sur le site de La Tête au Carré.
Un combustible brûlé nos besoins.
et Les Innocents à l'instant sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Le prix Nobel de médecine a été décerné aujourd'hui à trois neuroscientifiques. L'un est anglo-américain, les deux autres norvégiens. Ils ont été récompensés pour leurs travaux qui ont permis de découvrir un système cérébral, une sorte de GPS interne qui permet à notre cerveau de s'orienter dans l'espace. Cette découverte pourrait aider à mieux comprendre certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer.
Voilà, c'était l'annonce de ce Nobel de médecine en 2014 et on entendait l'une des récipiendaires visiblement en 13
ça heures. Ça devait être Madame Moser, MOSER, puisqu'ils étaient trois, absolument.
C'est elle hein, qui bondissait, faisait des petits sauts de cabri. Bon, on la comprend quand même.
Parce oui, que... on devinait l'activité de ses amygdales et de son cortex singulaire antérieur.
C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce GPS cérébral? Ben, ça, c'est une bonne façon de présenter un aspect particulier du cerveau aussi, Karine Nakache.
Hein. Oui, tout à fait.
Il faut trouver les formules choc.
Oui, il faut trouver les formules qui parlent à tout le monde et effectivement, on est toujours... Là, on a affaire à une découverte d'ailleurs dont nous parlons à la fois pour expliquer ce que sont les hippocampes, mais aussi qu'on va retrouver quand on parle de la mémoire en général, le fameux pont dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir un pont entre les mots techniques et puis les fonctions que ces mots véhiculent et qui, eux, nous sont plus directement familiers. Voilà, donc là, effectivement, les hippocampes qui jouent ce rôle de GPS cérébral et qui ont aussi une fonction très importante dans la mémoire et dans la création de nouveaux souvenirs. Et là aussi quelque chose qui a une incarnation, une concrétisation très tangible dans nos vies, dont on parlait il n'y a pas très longtemps avec Lionel, qui est le lieu de mémoire par excellence qui parle à tout le monde, qu'on retrouve dans la littérature ou dans nos vies, qui est la maison de vacances. Mmh. Et si les gens sont si attachés à leur maison de vacances, c'est parce que c'est un lieu qui nous est très familier, mais aussi parce que c'est un lieu de souvenirs dans lequel tout le monde a des souvenirs communs et qui ont une grande place dans notre représentation de nous-mêmes, notre roman de nous-mêmes. Voilà, donc c'est tous ces ponts-là qu'on a essayé de tisser, d'explorer entre la science sèche. La science, alors là, elle n'est pas très sèche dans, dans l'extrait sonore qu'on vient d'entendre, parce qu'on est dans un moment d'acmé. Mais quand on cherche à savoir qu'est-ce que ça nous dit, au fond, le prix Nobel décerné au place cells, au GPS cérébral, en quoi ça me concerne? Voilà, c'est un peu ça qu'on a essayé de faire. En quoi ça me concerne?
Alors, Lionel Nakache, on peut aller un petit peu plus loin, justement, pour expliquer ce qu'on entend vraiment par GPS cérébral. Qu'est-ce que ça désigne, au fond?
C'est une sublime découverte, et c'est un prix Nobel. On n'est pas là pour dessiner des bons et des mauvais points, mais c'est un sublime prix Nobel, parce que la découverte est fantastique. Ça commence dans les années 70. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre d'abord chez le rat, et ensuite plusieurs espèces animales autres, et notamment chez l'homme. On découvre, en fait, que dès qu'on rentre dans un lieu, il y a ce GPS qui est vraiment dans l'hippocampe, et à côté de l'hippocampe, il y a deux petites structures. Bref, ce GPS, dès qu'on rentre quelque part, les neurones de ce réseau-là cartographient l'espace, le lieu, pour savoir en fait coder notre position, mais également la position des gens qui nous intéressent, par exemple, de ce qui nous intéresse, etc. Cette première découverte, c'était une découverte années 70 qui a été développée. Un des points, et c'est ce que Karine disait, c'est qu'on a fait par-dessus une deuxième découverte, c'est que non seulement ce GPS, c'est la base cérébrale de la navigation spatiale et de l'orientation dans l'espace, mais on s'est rendu compte, par hasard, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, que des rats, par exemple, qui sont implantés dans ce GPS, on les fait se promener dans un labyrinthe et on arrive à décoder leur GPS, ça veut dire on arrive au bout d'un moment à savoir où ils sont dans le labyrinthe sans voir la vidéo qui les filme, mais en analysant le GPS, c'est comme un hacker informatique.
Vraie carte, quoi. C'est une vraie carte.
Et on connaît ce code. On connaît aujourd'hui le code cérébral de ce GPS, mais la découverte par-dessus qui était la cerise sur le gâteau, c'est qu'on découvre par hasard que la nuit, quand ces rats sont en sommeil profond, ils se mettent à rejouer ces trajectoires de la veille des centaines, des milliers de fois et en accéléré parce qu'il n'y a pas besoin de bouger les graisses, les muscles, etc. Et on découvre que ce qu'on appelle ça le replay, on rejoue quoi.
C'est
de la consolidation. C'est-à-dire que si on empêche ce replay de survenir, la mémoire des trajectoires est endommagée. Autrement dit, on a besoin de ces phases de sommeil pour arriver à mémoriser nos trajectoires. Et là, ce que Karine disait, le lien entre espace et mémoire, c'est que la découverte fantastique, c'est qu'on a découvert du coup que se souvenir des choses que nous avons vécues emprunte toujours le mécanisme du souvenir des trajectoires par lesquelles on est passé lorsqu'on les a vécues. Mmh. Autrement dit, la mémoire des épisodes de notre vie repose toujours sur une spatialisation. Et si vous y réfléchissez, c'est très profond comme élément. Ça veut dire qu'en réalité, on a besoin d'aménager nos espaces de vie non seulement pour pouvoir nous orienter dedans, mais pour pouvoir mieux nous souvenir de ce que nous vivons dans ces espaces.
Ouais. Et justement, dans le cadre de maladies neurodégénératives, c'est la perte de cette spatialité aussi qui
peut
jouer ?
Dans certaines maladies, évidemment, la plus connue, dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, un des symptômes initiaux, évidemment, c'est ces troubles de mémoire entérograde, donc la difficulté à fabriquer des nouveaux souvenirs, les souvenirs épisodique, ça veut dire le « je me souviens », et qui va de pair avec des difficultés d'orientation dans l'espace. Et en réalité, on pense que ces deux symptômes, qui sont même au début très discrets, reflètent le dysfonctionnement de ce même réseau, d'un réseau de projection. C'est-à-dire qu'on a ce système qui nous permet non seulement de savoir où on est, mais de savoir aussi nous mémoriser ce que nous sommes en train de vivre.
Une question de Paul, alors ce serait presque une question d'écologie cérébrale, puisqu'il nous parle du cerveau, en se demandant s'il produit des déchets, et si ces déchets existent, comment sont-ils évacués ? Alors, est-ce qu'on vous a déjà posé la question, Lionel Nakache ?
Alors écoutez, pas sous l'angle de parlez-vous cerveau, mais et avant de la poser, quand vous apprenez la biologie, et la biologie du cerveau notamment, mais pas que, évidemment, que le cerveau, les cellules qui le composent, notamment les neurones, mais pas que les neurones, sont de grands producteurs de déchets cellulaires, de déchets. Déchets, et un petit lapsus, déchets, parce qu'en réalité, c'est pas juste un lapsus, c'est que certaines maladies vont conduire à une mort cellulaire par une pathologie de l'élimination des déchets. Un peu, vous voyez, comme une sorte de ville en grève d'évacuation des déchets, les pubales qui s'accumulent, etc. Et bien, dans un neurone, par exemple, lorsque c'est le cas, et qu'il y a des amas d'amas protéiques qui sont plus dégradés, au bout d'un moment, et bien, les neurones vont mourir de ça. Et donc, il y a toute une gamme. Dans la maladie d'Alzheimer, ces amas de protéines, on commence à les connaître. Mais par exemple, il y a des maladies beaucoup plus rares, comme ce qu'on appelle les maladies lysosomales. Les lysosomes, ce sont des petites vésicules qui font partie du système de nettoyage, on va dire, d'élimination des déchets. Et il y a des maladies qui vont toucher le fonctionnement de ces lysosomes. Donc, on a beaucoup de modèles de maladies qui ont à voir avec cette perturbation de ce que vous disiez, l'écologie des déchets du cerveau.
Ouais. Karine Nakache, est-ce que vous êtes projetée dans le futur, justement, pour imaginer la machine cerveau à l'œuvre dans quelques décennies?
Oui, encore un des angles qui émerge quand on s'intéresse au cerveau, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain? Est-ce que notre cerveau déjà est influencé, impacté, même si le mot n'est pas très beau, mais impacté par les nouvelles technologies? Et comment est-ce qu'il va évoluer? Donc, à ces questions-là, nous, ce qu'on a choisi en tout cas de faire, c'est d'essayer de montrer que déjà aujourd'hui, le monde très très mouvant et très dont les évolutions sont très rapides n'est pas sans effet sur le fonctionnement de notre cerveau. Donc on rencontre d'une expérience qui montre par exemple comment nous avons d'une certaine manière intériorisé le recours à Google, qui s'est tellement banalisé dans nos vies quand on est à la recherche d'informations, mais qui, même si je ne suis pas avec un écran devant moi, c'est d'une certaine manière intériorisé quand je suis à la recherche d'une information qui ne me vient pas immédiatement à l'esprit. Et ça n'a l'air de rien, mais déjà, quand on parle du futur, c'est du futur immédiat. On parlait de conjugaison tout à l'heure, c'est du futur immédiat, mais ça laisse imaginer ce que sera notre cerveau si demain il devait être relié avec ces fameuses interfaces cerveau-machine. Et donc, voilà, la question du futur est en fait la question qui est à la fois absente, par exemple, de notre livre, mais qui, d'une certaine manière, sous-tend le projet dans son ensemble, parce que pour comprendre ce futur et ce que l'avenir, et notamment l'avenir technologique, nous réserve, nous, il nous paraissait vraiment essentiel, déjà, de comprendre les ressorts du fonctionnement de notre cerveau d'aujourd'hui.
L'exemple cité par Karine Nakache, Lionel Nakache, montre bien, justement, la plasticité du cerveau, aussi sa rapidité, sa faculté à s'adapter quasiment immédiatement à des changements de vie majeurs.
Ouais.
Et comment biologiquement, justement, notre système cérébral peut produire autre chose.
Exactement. Et du coup, mais cette plasticité, elle n'est pas toujours, disons, elle peut être pour le meilleur, mais là aussi, elle peut être aussi dommageable. Autrement dit, on a besoin à nouveau de comprendre pour savoir comment est-ce qu'on va façonner le demain de nos sociétés. C'est-à-dire que face aux outils de technologie numérique ou d'information, on peut vraiment en faire le meilleur et le pire. C'est-à-dire, le meilleur, c'est qu'on peut arriver à sauvegarder nos efforts attentionnels pour des tâches auxquelles on n'a plus besoin de se plonger indéfiniment. Mais l'importance, dans ce cas-là, c'est de préserver nos ressources attentionnelles pour autre chose. Par exemple, vous savez, le rapport à la mémoire, on peut avoir, par exemple, ne plus avoir besoin de mémoriser soi-même autant d'informations, mais du coup garder ces ressources mentales qui sont disponibles pour mieux traiter ces informations, pour développer l'esprit critique, pour arriver à synthétiser, à organiser. Mais si par contre on plonge dans une sorte de paresse de la pensée, c'est-à-dire j'ai plus besoin de m'en souvenir, eh bien non seulement je vais plus réfléchir, mais en plus je vais être compulsivement sur mon portable pour vérifier toutes les deux secondes, donc interrompre notre vie mentale intérieure. Donc on voit qu'il y a tous ces éléments-là qui sont possibles, des avantages et des risques.
Voilà, et pour consolider nos connaissances sur le cerveau, rien de mieux qu'une lecture, par exemple, prendre le temps de lire, entre autres, Parlez-vous cerveau, Lionel Nakache avec Karine Nakache, c'est publié chez Audit Jacob et c'est en coédition avec Radio France. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans La Tête au Carré.
Merci beaucoup.
À bientôt. Et merci à Stéphane Boja et Mathias Alléon qui étaient cet après-midi à La Technique.